très régulièrement, à chaque Noël, on entend une plainte s'élever des paroisses. Une plainte qui vise cette société de consommation qui détourne du vrai sens de Noël l'accueil d'un sauveur. Mais en méditant sur l'évangile que nous venons d'entendre, au fond, le premier Noël, le jour de la nativité, n'était pas si différent de nos Noëls d'aujourd'hui. Vous l'avez remarqué, c'était l'empereur Auguste qui voulait recenser toute la terre et chacun devait aller dans sa ville d'origine. Joseph, qui était de la lignée de David, va à Bethléem, et là, à Bethléem, on imagine une grande activité, l'hôtellerie est pleine, c'est le business qui marche à fond. On imagine volontiers aussi que des commerçants sont là disposés pour accueillir les gens de passage. Certains offrent de la nourriture, d'autres peut-être un logement, d'autres peut-être de l'eau. Il y avait certainement toute une activité formidable à Bethléem et un commerce incroyable, plus que d'habitude. Il fallait absolument profiter de l'aubaine de tous ces gens de passage pour pouvoir un peu faire marcher les affaires. Mais Dieu n'est jamais là où nous l'attendons. Et ce n'est pas dans cette agitation qu'il est né, mais c'est à côté, dans le silence, dans une certaine solitude. On parle de berger, même si on ne dit pas le lieu exact, mais on imagine quelque chose de retiré de l'activité du monde. C'est un peu aussi votre démarche à vous, chers frères et sœurs, où vous êtes le temps d'une messe retirée des activités du monde pour être plus à l'écoute de la parole du Seigneur. Et n'est-ce pas là, au fond, la grâce de l'Évangile ? Que Dieu répond là où on ne l'attend pas. Parce que quand les anges disent « Aujourd'hui, je vous annonce une bonne nouvelle », en fait, dans le texte, alors ça ne se dit pas en français, mais « je vous évangélise une bonne nouvelle ». La bonne nouvelle de l'Évangile est précisément que Dieu n'a pas la manière d'agir des hommes. Alors que les hommes sont attirés par le tumulte, lui, Dieu, préfère le silence et la solitude pour naître. Alors que l'empereur Auguste, César Auguste, veut recenser toute la terre, veut dénombrer toute la terre pour montrer toute sa puissance. Parce que c'est ça, il veut dénombrer la terre pour dire « voilà ce dont je suis, sur quoi je règne, en maître incontesté ». Eh bien, Dieu, lui, il nous se présente à nous comme un nourrisson emmailloté dans une mangeoire. Alors que la question du recensement dans la Bible est une question très grave. Vous vous souvenez, le deuxième livre de Samuel, quand David avait voulu recenser le peuple, eh bien, c'est un péché, une offense contre le Seigneur, parce que c'est, quelque part, compter plus sur sa force que sur la force de Dieu. Eh bien, le prophète lui dit « Je te laisse un choix entre trois choses, la famine, la guerre, la peste. » Et David préfère la peste parce qu'il préfère tomber entre les mains de Dieu qu'entre les mains des hommes, alors que le jour de Noël, c'est Dieu qui choisit de tomber entre nos mains. Il n'est pas là où nous l'attendons. Comme c'est bon, frères et sœurs bien-aimés, que nous puissions être attentifs à cette présence du Seigneur qui vient à notre rencontre par des chemins qui ne sont pas les nôtres. Autant mes pensées sont loin de vos pensées, nous dit Dieu, autant mes chemins sont éloignés de vos chemins. Et c'est par des chemins détournés que le Seigneur vient à notre rencontre pour pouvoir manifester son évangile et nous donner, redonner confiance. À nous d'être attentifs à ces signes de la présence de Dieu. Mais pour être attentif, il y a comme une condition, cette condition, c'est la dimension contemplative de nos vies, la dimension intérieure de nos vies. C'est vrai que pour découvrir dans ce nouveau-né emmailloté dans une mangeoire la présence de Dieu, eh bien c'est Marie et Joseph qui sont là comme ces témoins de l'extraordinaire mystère. Il faut un regard de foi. Et nous aussi, dans nos vies, pour découvrir la présence de Dieu, ce n'est pas si simple. Il faut aussi ce regard de foi qui nous le fait découvrir dans les choses petites de chaque jour, là où il n'y a pas d'apparence humaine, là où il n'y a pas de grande festivité, une grande attention, effervescence. Là, Dieu se manifeste. Et c'est ça le mystère de Noël. C'est un mystère qui nous appelle à nous décaler, à nous décentrer, à ne pas être selon la logique du monde. C'est ce que nous dit l'apôtre saint Paul dans la deuxième lecture. Voilà, ne soyez pas renoncez à l'impiété, aux convoitises de ce monde et vivez dans la justice et la piété. Il y a quelque chose pour le chrétien qui est inconfortable. Il y a une forme de tension. À la fois, il est appelé à vivre dans ce monde, ici et maintenant, dans ce 21e siècle, ici, dans ce pays, dans cette situation, dans cette circonstance. Et en même temps, il sait que, eh bien, l'avenir que Dieu lui promet est bien plus grand. Et il doit se garder pur au milieu du monde, et c'est tout le combat spirituel que nous avons à mener, nous, qui sommes disciples de Jésus, pour pouvoir nous attacher à cette présence de Jésus et être attentifs au passage de Dieu, mais au passage de Dieu qui n'a pas la manière du monde de se manifester. C'est très beau que nous puissions être là, réunis en ce soir, que nous puissions prendre du temps auprès du Seigneur, lui confier essentiellement nos familles. Noël, on le sait, est une fête familiale par essence, mais ce n'est pas parce que c'est familial que ça ne met pas en avant aussi toutes les tensions de nos familles et parfois les désaccords et les manques de réconciliation qui nous font souffrir. Eh bien, nous voulons aussi les déposer auprès du Seigneur de façon à ce qu'il puisse venir et s'installer et nous évangéliser, annoncer une grande joie, annoncer la joie d'une réconciliation, annoncer la joie d'une miséricorde. C'est ce que résume très bien ce grand poète allemand Friedrich Hölderlin, qui disait « Là où croit le péril, là où croit le péril », et on le voit dans la première lecture, le péril de ces bottes qui frappaient le sol, de ces manteaux couverts de sang, le bâton de tyran, le joug qui pèse sur le peuple, là où croit le péril aussi dans notre monde. On voit qu'il y a 1000 périls, et dans notre France, 1000 périls qui nous guettent. Et le poète rajoute, là où croit le péril, croit aussi ceux qui sauvent. C'est, je trouve, cette formule, un résumé de toute la foi chrétienne. Là où croit le péril, croit aussi ceux qui sauvent. Que nous puissions, frères et sœurs bien-aimés, être des hommes et des femmes d'espérance pour découvrir dans ce monde, qui est un monde agité, mais n'a-t-il pas toujours été agité, déjà du temps de l'empereur Auguste ? Eh bien, puissions-nous découvrir celui qui vient nous redonner la paix. Amen.